quand nous chanterons le temps des cerises, les guérosignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes vermeilles, tombant sous la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises, et le souvenir que je garde au cœur, et le souvenir que je garde au cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et je vais commencer l'évocation des partageux de la commune. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on en a tout au moins ce matin, on a l'impression que c'est une spéciale commune sur Radio Libertaire, mais voilà. Et bien là, c'est en live, donc en direct et non pas en rediff. Hein. La semaine dernière, nous étions arrêtés donc à ce 22 janvier, dimanche 22 janvier. Et donc, par décret, donc, eh bien, le gouvernement de la Défense nationale décide, ferme les clubs. Donc, c'est suite à ce mouvement insurrectionnel sur la place de l'Hôtel de Ville, qui a été déclenché par l'échec de la sortie de Buzynval, et puis aussi les rumeurs, mais qui n'en sont pas, hein, de tractation d'armistice avec Bismarck. Et alors, dès lors, l'abîme entre la République bourgeoise et la République sociale va se creuser pour devenir la République universelle. Et on peut prendre par exemple ce qu'écrit Louise Michel, voilà, un poème. Voilà. La République universelle se lève dans les cieux ardents, couvrant les peuples de son aile comme une mère ses enfants. À l'Orient blanchit l'aurore, l'aurore du siècle géant, debout. Pourquoi dormir encore ? Debout, peuple, sois fort et grand. C'est écrit dans La Commune, donc, qui est paru chez Stock en 1898. Et cette République universelle, dans cet ouvrage de Louise Michel, on le voit apparaître quatre fois. Voilà. Ces clubs, pourquoi avaient-ils été tolérés par ce gouvernement du 4 septembre, alors que le général Trochu avait décidé l'état de siège ? Donc c'était la réglementation des réunions. Sûrement pas dans un but démocratique. Et en fait, toutes les tentatives pour renverser ce gouvernement dit de la Défense nationale depuis le 4 septembre avaient avorté. Et sûrement à cause de cette liberté de parole qui dévoilait à la police la stratégie des révolutionnaires. Ça s'est vu pour les journées du 31 octobre et idem pour les journées, donc la journée du 22 janvier. Du reste, en 1871, Molinari écrit dans les Clubs Rouges, pendant le siège de Paris, il explique donc dans cet ouvrage, tout de suite après la Commune, l'échec pour établir la Commune, par exemple, ce 22 janvier 1871. Et voilà ce qu'il écrit. Un des résultats essentiels de cette divulgation quotidienne de mystères dans des clubs rouges, ça a été d'avertir le gouvernement des complots qui se tramaient contre lui. Le 21 janvier, au soir, par exemple, les meneurs du Parti révolutionnaire annonçaient au public du club de la Reine Blanche, à Montmartre, qu'on irait le lendemain à midi installer la Commune à l'hôtel de ville. L'expérience que nous venons de faire de la liberté des clubs, dans un moment de crise, n'atteste-t-elle pas malgré tout, que cette liberté suspecte présente plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, Molinari, bien sûr, est du côté versaillais. Il se sert du journal des débats, pour faire ses comptes rendus. Et voilà ce qu'il écrit. Ses comptes rendus, écrits sous l'impression du moment, et destinés à vivre un jour, perdront sans aucun doute à être réunis. Et nous aurions fait preuve de sagesse en les laissant enfouis dans la collection du journal des débats. Mais il est bien difficile de résister à la tentation de faire un volume dont on a les matériaux sous la main, avec un éditeur disposé à s'associer à cette aventure. Cet éditeur, c'est Garnier Frères. Alors le journal des débats quotidien jouissait à l'époque d'une réputation de sérieux totalement surfaite. Par exemple, au début de la Commune, donc après le 18 mars, il admet que le gouvernement de la Défense nationale n'est pas à la hauteur et va jusqu'à proposer un gouvernement de défense personnelle. Ce journal va être suspendu par la Commune à Paris le 5 avril 1871 et il va reparaître dès le 31 mai. Et voilà ce que l'on peut lire dans le numéro qui reparaît le 31 mai 1871, puisque, d'après le maréchal de MacMahon aux habitants de Paris, proclamation simple et modeste, comme son auteur, l'insurrection est vaincue et la Commune détruite, nous venons reprendre la défense des lois et la liberté et continuer notre œuvre, un moment interrompu par la plus odieuse tyrannie. Alors ce journal a été créé en 1800, il va disparaître le dernier numéro 20 août 1944, ça tombe avec l'épuration des journaux qui ont continué à paraître après cette date du 26 novembre 1942, donc 15 jours après l'envahissement de la zone sud, et tous les journaux qui ont paru donc après cette date ont été supprimés. C'est ce qui est arrivé par exemple pour le journal Le Temps, qui deviendra le journal Le Monde. Il y en a qu'un qui est passé au travers, c'est le journal La Croix, comme par hasard. On peut prendre quelques mots sur Gustave de Molinari. On va sur Wikipédia. Et alors, c'est date de naissance, c'est 3 mars 1819 à Liège. Et il va décéder donc le 28 janvier 1912 à Dunkerque. C'est un économiste belge. Disciple de Frédéric Bastiat, et alors il est considéré, et c'est tout à fait intéressant, curieux, et c'est pour ça qu'il a suivi les clubs et qu'il le suit avec en prenant bien soin de voir toutes les propositions économiques ou sociales dans les clubs, donc en 1870-1871. Après, c'est Fontoulieu donc qui prendra la succession pendant la Commune, parce que je crois que Molinari devait comme avoir des problèmes à se déplacer dans Paris après le 18 mars. Enfin, toujours est-il que ce Gustave de Molinari est considéré comme le fondateur de l'anarcho-capitalisme. Voilà. Et alors, il est partisan du libre-échange, laissé à sa propre impulsion. Et alors, on peut aller sur le site Institut économique Molinari. Et voilà ce que l'on peut lire. En 1860, Gustave de Molinari regagna Paris pour des raisons qui demeurent obscures. Il collabora au journal des débats, dont il sera éditeur de 1871 à 1876. Donc on voit, c'est lui qui a repris la succession fin mai 1871. Il était présent durant le siège de Paris en 1870. Ses réflexions sur le sujet et sur la Commune donneront naissance à deux nouveaux ouvrages, « Les Clubs Rouges pendant le siège de Paris » et le mouvement socialiste et les réunions publiques avant la révolution du 4 septembre 1870. Dans ces deux ouvrages, Molinari défend la liberté d'expression. Il y récuse l'accusation formulée contre les clubs socialistes d'avoir fomenté la commune, en insistant au passage sur leur rôle positif quant au moral de la population pendant le siège. Au contraire, c'est la suppression de la liberté d'expression et des clubs, par la force, qui a amené la Révolution rouge. D'après Molinari, Molinari insiste sur l'idée de la liberté d'expression comme nécessité pour le progrès des sciences. Certes, laisser les idées socialistes être diffusées et agiter les esprits est un mal, une menace qui pèse sur la liberté, mais c'est un mal nécessaire dont on ne peut se priver que pour un mal bien plus grand. Le monopole est fatal à la science comme il l'est à l'industrie. L'agitation socialiste, pour néfaste qu'elle soit à force de faire l'éloge d'idées liberticides, avait contribué à sortir les libéraux de leur torpeur entre 1848 et 1851. Molinari considérait que l'agitation devait être sans entrave aucune pour qu'on puisse espérer un jour voir les Français apprendre l'économie politique. Voilà. C'est pris donc sur le site de l'Institut économique Molinari. Et alors c'est très éclairant de prendre les rapports que fait Molinari, puisque pratiquement tous les soirs pendant le siège, il passait donc dans un club, il prenait des notes, et on voit que ces notes sont très orientées, puisqu'en fait ça va alimenter son idée d'anarcho-capitalisme. Et alors, si on accepte l'hypothèse du calcul de Thiers de déclencher un mouvement insurrectionnel s'il conscrit dans les remparts de Paris, et c'est lui-même qui le dirait, hein, pour enserrer ce volcan des révolutions, c'est le projet qu'il a, c'est le motif qu'il a donné à son projet, donc quand il était à la commission donc des fortifications. Ça, c'était avant 1848. Et donc, écraser ce volcan des révolutions définitivement, il ressort que l'interdiction des clubs mettra les révolutionnaires dans la clandestinité et que la police ne sera plus au courant de ce qui se prépare. De toute façon, le 18 mars 1871 a été une révolte, mouvement populaire totalement spontané contre la décision de Thiers de reprendre l'artillerie à la garde nationale. Aucune structure de prise de pouvoir n'avait été prévue. Et c'est le comité central de la garde nationale, tout nouvellement créé, qui a assumé cette vacance de pouvoir entre le 18 mars et l'installation de la commune le 28 mars à l'hôtel de ville. Toutes les analyses proposées à ce jour ont toujours eu l'idée d'envisager comment aurait évolué la commune si les comités de vigilance présents dans chaque arrondissement et plus au contact de la population avaient été préférés au comité central de la garde nationale. Et oui, dans les comités de vigilance, les hommes n'avaient pas plus de pouvoir que les femmes, alors que la garde nationale ne comportait que des hommes. Complexité encore, puisque le 15 mars 1871, à la quatrième réunion au Tivoli Vauxhall, rue de la Douane, constitutive de ce comité central de la garde nationale, il a été voté cette motion. Tout combattant pour la liberté portera le nom de fédéré. Donc ces femmes, hommes, enfants, français, étrangers, jeunes, vieux. Et alors on peut remarquer que la commune a été la première révolution non sexiste, non gynophobe, comme on pourrait dire. Mais elle n'a été installée qu'après le 28 mars. Il faut rappeler que c'est le comité central de la garde nationale, donc avec une structure élective mais que masculine, qui a décidé du mode électoral, donc des délégués à la commune, et qui a donc évacué tout à fait naturellement les femmes du scrutin. La révolution de 1848 n'avait donné le suffrage qualifié d'universel, il n'avait donné qu'aux hommes. Il n'y aura pas de manifestation pour défendre les clubs quand ce gouvernement va décider de les fermer le dimanche 22 janvier 1871. Alors, pourquoi ? Ben oui, alors on peut voir, finalement, c'était un lieu où la police venait se renseigner. Bon, tout le monde en était au courant. Et puis, il y a peut-être d'autres motifs. Et la réponse, elle peut venir d'un orateur, du club Favier. Ce club Favier était situé 13 rue de Paris, c'est l'actuelle rue de Belleville. Et le soir du 22 janvier 1871, et ça c'est Molinari encore qui le rapporte, voilà ce qu'il écrit. « Croyez-moi, citoyens, disait-il, cet orateur, tout le mal vient des clubs. Comment voulez-vous qu'on prenne des résolutions viriles au milieu d'un tas de femmes, d'enfants et de propres ariens qui viennent ici pour digérer leur dîner? D'ailleurs, quand nous prenons une résolution, quand nous donnons rendez-vous publiquement, est-ce que nos ennemis n'en sont pas informés tout de suite? Ce sont les clubs qui nous perdent. Des sociétés de carbinari, voilà ce qu'il nous faut. » Et alors, il a raison, plus de clubs, des sociétés secrètes. Alors nous pourrons nous concerter, donner des mots d'ordre et, quand le moment sera venu, nous ne trouverons pas de mobiles à l'hôtel de ville, ni de mitrailleuses. Donc, fin du rapport de ce Gustave de Molinari. Mais l'orateur, là, du club Favier, oublie que les restrictions alimentaires n'occasionnaient pas vraiment une digestion difficile. Hein. L'hiver était aussi particulièrement rigoureux, puisque la Seine était gelée à Paris certains matins. On venait se chauffer dans les clubs, oui, la chaleur animale, mais on venait aussi pour débattre. Et l'émancipation politique de toute une classe jusque-là évincée du débat se retrouvait pour formuler des idées. Et alors j'ai retrouvé dans un journal, c'est le journal Le Temps, daté du 19 mars, où on donne la température donc du 18 mars 1871. 6h du matin, il faisait 2 degrés. Voilà. Le général Vinoy a écrit « Dès la situation des esprits, de la situation des esprits pendant le siège de Paris, un conseiller nouveau est venu s'imposer aux inspirations de la défense, contrôler ses actes et parfois les diriger. C'est l'opinion publique. Son intervention a été rarement opportune et son influence presque toujours fatale. Peut-être était-il difficile à un gouvernement issu d'un mouvement populaire de s'opposer efficacement aux manifestations de ceux qui l'avaient porté au pouvoir. Les clubs. Ah. Les clubs qui ont été ouverts à Paris et sans interruption pendant tout le siège n'ont été suspendus qu'après l'échauffourée du 22 janvier et sur la demande expresse du nouveau commandant en chef. Leur nombre avait été, au lendemain du 4 septembre et dès le début de l'investissement, donc par les Prussiens, encore bien plus considérable. Mais quelques-uns n'avaient pu tenir. Et ceux-là seuls, où se discutaient le plus vivement les questions, les plus exaltées, les plus dangereuses, avaient accaparé à leur profit la grande généralité des auditeurs. Les autres, trop modérés sans doute, et où des gens raisonnables venaient exposer des théories plus sérieuses et plus sensées, avaient dû presque tous disparaître devant l'indifférence d'un public qui ne pouvait plus entendre que ceux qui flattaient les passions mauvaises ou encourageaient les illusions. Le dernier club qui ait vécu siégeait à Belleville, dans la salle Favier. Il servait en quelque sorte de quartier général de l'émeute. Et sa dernière séance, celle qu'il a tenue dans la soirée du 22 janvier, a eu pour conclusion un appel aux armes demeuré sans résultat. L'appel à la révolte s'y mêlait tous les soirs, à l'appel à l'indiscipline, et surtout le refus de l'obéissance à des généraux que l'on ne manquait pas d'accuser à la fois d'incapacité et de trahison. Donc c'est évidemment ce général Vinoy, bonapartiste, qui a soutenu le coup d'État de Napoléon III, qui écrit cela dans l'Armistice et la Commune, qui a été publié chez Plon en 1872. Et alors, bien oui, on se rend compte, et c'est Edith Thomas qui le résume hein, dans Les Pétroleuses, il est plus facile de s'entendre avec les Prussiens, hommes d'ordre, qu'avec les ouvriers de Belleville. Et oui. Alors, fermeture des clubs. Le décret, il est daté du 22 janvier, mais il va prendre effet le 23. Et il y a une lettre en tête de la Garde nationale, datée du 23 janvier 1871. « Monsieur l'amiral, le moyen le plus simple et le plus pratique d'empêcher les clubistes de se réunir au lieu habituel de leur divagation, c'est d'y afficher l'interdiction écrite que j'ai l'honneur de vous adresser. Dans le cas où, malgré l'interdiction, une des salles se trouvait envahie, nous pourrions la faire évacuer violemment. » Et c'est signé le major de la 19e subdivision, Clément. Alors c'est pas Clément Témoin, celui-là il s'appelle Clément. Et la force de police qui est proposée d'être utilisée, bien sûr, c'est la garde nationale. Et oui, c'est toujours cette milice bourgeoise, comme à sa création. Création qui a été reconnue du reste par Louis XVI, et ça le 17 juillet 1789. Et oui, la garde nationale, elle est partie de là. Et qui va évoluer entre la définition, par exemple, de 1790 d'un certain Prieur, la garde nationale, c'est la nation armée pour défendre ses foyers. Et puis celle de 1871 d'Arthur Arnoux, les gardes nationaux ne sont pas des hommes, mais des idées vivantes. Et alors voilà ce décret donc de fermeture, le gouvernement de la Défense nationale, considérant que, à la suite d'excitations criminelles dont certains clubs ont été le foyer, la guerre civile a été engagée par quelques agitateurs désavoués par la population tout entière, qu'il importe d'en finir avec ces détestables manœuvres qui, dans les circonstances actuelles, sont un danger pour la patrie et qui, si elles se renouvelaient, entacheraient l'honneur irréprochable jusqu'ici de la défense de Paris. Décrète. Article 1er. Les clubs sont supprimés jusqu'à la fin du siège. Les locaux où ils tiennent leurs séances seront immédiatement fermés. Les contrevenants seront punis conformément aux lois. C'est l'état de siège. Donc pratiquement, ça peut être la peine de mort. Article 2. Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, 22 janvier 1871. Et c'est signé Général Trochu, Jules Favre, Emmanuel Aragon, et pas confondre avec Étienne Arago, donc maire de Paris, mais qui a démissionné, Jules Ferry, ah oui, c'est lui l'actuel maire de Paris, Jules Simon, Eugène Pelletan, Garnier Pagès, Ernest Picard. Et voilà ce qu'écrit Le Pelletier qui est un contemporain de la Commune. Les clubs furent pendant le siège les théâtres et les salons du peuple. On eut donc raison de les laisser ouverts et leur fermeture ne donna nullement le résultat que Vinoy et Jules Ferry attendaient, de clore les émeutes. Puisque 6 semaines s'étaient à peine écoulées depuis le 22 janvier que le comité central et la commune étaient maîtres de Paris. Et alors, ça n'a pas changé grand-chose, on peut prendre ce qu'écrit Louise Michel. Le gouvernement, jurant toujours qu'il ne se rendrait jamais, essaya de faire rentrer dans le silence les comités de vigilance et les chambres fédérales, les clubs. Alors, tout devint club. La rue fut tribune, les pavés se soulevaient d'eux-mêmes.
Des réunions le soir près du feu, quand du ciel pleurait l'ennui créateur, on sortait l'album de l'orgueil des vieux, 3 générations d'art procréateur. L'album de famille. On y voyait Jules, le cousin Benoît, l'oncle Gaëtan qui chasse en Afrique. Mais dans les cousins, les tantes et leurs cliques, je savais déjà que je pataugerais pas. Et si par hasard on venait à demander, tiens, mais je ne vois pas le petit dernier. Ah, celui-là, ben, on ne sait pas. L'album a jauni, tissant en secret des toiles d'araignée dans la barbe du temps. J'ai quitté tout ça, leur gueule m'ennuyait, mais je les imagine feuilletant benoîtement l'album de famille. Voici le grand Jules, le cousin Benoît, l'oncle Gaëtan qui chasse au Kenya. Voici les cousins, les tantes, la Smala. Tiens, y a une place vide, qui sait qui manque là. Et comme par hasard, on vient à demander ce que fait venir le petit dernier. Ah, celui-là, ben, on ne sait pas. Le ciel suit son cours avec Stéphane, moi je mange pas tous les jours à l'hôtel du vent, c'est que du pissenlit, mais je préfère ça que bouffer les racines dans le plat d'argent. L'album de famille, où l'on voit le grand Jules, le cousin Benoît, l'oncle Gaëtan qui est mort au Tonkin, les cousins, les tantes en plus ou en moins, et puis la place vide où je ne suis pas. Et si par hasard on vient à demander ce que peut devenir le petit dernier. Ah, celui-là, ben, on ne sait pas. Le ciel m'a souri, un jour de printemps, la fortune c'est sourd, mais ça fait du bruit. Je suis revenu au lieu de mes 15 ans, avec des sourires, on m'a ressorti l'album de famille. Voici le grand Jules, tiens, mais là c'est moi, l'oncle Gaëtan, tiens, c'est encore moi, les cousins et moi, et les tantes et moi, et les cousins et moi, et les tantes et moi, et les cousins et moi, et les tantes et moi, et les cousins et moi, et les tantes et moi, et les cousins et moi, et les tantes et moi, et les cousins et moi, et les tantes et moi.
Jean Jonas. Jean Jonas, et alors, bien là, oui, c'était scène de la vie de famille. Et oui, famille, je te hais. Et alors, bien oui, en 1871, il y a eu des familles où il y avait des fédérés, et il y avait aussi des Versaillais. Et évidemment, quelques années plus tard, eh bien, les réunions de famille ne devaient pas être très faciles. Alors, ça a été, disons, relativement gommé avec l'affaire Boulanger, l'affaire Dreyfus. On verra, par exemple, Henri Martin, qui va être le fondateur ou un des présidents de la Ligue des Patriotes, qui va être combattu par Tirard, alors qu'au moment de la Commune, c'était des républicains opportunistes versaillais, en plus. Et alors, l'eau va passer sous les ponts. Et finalement, on va se retrouver mêlés en même temps dans cette idée de revanche lancée donc par Jules Ferry, entre autres, mais aussi toutes ces républicains opportunistes. Donc, ce ciment fédérateur autour de la République, et on va pratiquement tous se retrouver dans les tranchées d'entre 1914 et 1918. Et alors, bien, on va revenir à 1871, lundi 23 janvier, à 18h, il fait nuit, une petite barque quitte la rive de la Seine au pont de Sèvres, côté Paris, donc pour traverser vers Sèvres pour les lignes allemandes. La Seine charrie d'énormes glaçons. La barque est obligée de louvoyer entre les blocs de glace. Dans la barque, il y a Jules Favre, il y a son gendre et le capitaine Hérisson. Et alors, on peut prendre ce qui est écrit dans le rapport Daru, donc c'est un rapport parlementaire. Il monta dans une barque assez maltraitée par les balles prussiennes et s'avança péniblement au milieu des glaçons que le fleuve charriait. On peut prendre ce qui est écrit Stieber. Alors bon, c'est très douteux puisque c'est espion de Bismarck. Alors en fait, c'est le fils de Stieber qui a réécrit pratiquement de mémoire les notes donc de son père, ce fameux Stieber, qui naviguait donc, qui était un espion prussien, espion de Bismarck, et donc qui a, disons, fricoté à cette époque. Et voilà donc ce que Stieber, le père, aurait écrit, repris donc par son fils. Je reçus de mes espions à Paris l'annonce du départ vers nos lignes d'un important parlementaire français. Je me précipitais aussitôt chez Bismarck, qui est à Versailles, qui me donna l'ordre de préparer un logement sûr à son intention. Je décidai alors de l'installer chez moi en prenant toute précaution pour qu'il ne puisse remarquer qu'il était hébergé par la police. Et voilà. Mercredi 25 janvier, Bismarck reçoit donc ce Jules Favre et lui dit « Provoquez donc une émeute pendant que vous avez encore une armée pour l'étouffer. Vous ne voyez pas qu'aucun gouvernement n'est possible tant que 300 000 citoyens sans discipline, animés de passions démagogiques, resteront armés. » 26 janvier, nous sommes jeudi, 132e journée de siège. Des obus sont tombés, par exemple 49 rue de Cambronne, 98 rue Lecourbe, 106 rue de Serve, aussi 66 rue Blomet. On voit que c'est la rive gauche qui est particulièrement visée. Il est aussi rapporté qu'un obus a glissé sur 300 mètres rue de la Tombissoire devant une queue à une boulangerie. Et alors, ce 26 janvier, cessez le feu. Signature de l'armistice. L'annonce officielle, on n'ose pas trop. On va attendre deux jours, le 28. Et alors voilà ce que l'on peut prendre dans l'article 2. Donc de cet armistice. L'armistice ainsi convenu a pour but de permettre au gouvernement de la Défense nationale de convoquer une assemblée librement élue qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée ou à quelles conditions la paix doit être faite. L'Assemblée nationale se réunira dans la ville de Bordeaux. On peut quand même rappeler que les Prussiens occupent 43 départements. Et voilà ce qu'écrit Gabriel Anoto sur cette partie du territoire. C'est par les soins des autorités allemandes que furent affichés les décrets électoraux. Et puis aussi, donc, les publicités pour les candidats, bien sûr. Et voilà ce qu'écrit Robida. Donc, sur ce 26 janvier, ce jeudi 26 janvier 1871. Et la bourse.
a monté de 45 centimes hier. Cette bourse est ignoble. Elle monte à l'idée d'une capitulation. Et alors, on est toujours là au pont de Sèvres, mais le pont a été démoli, le pont a sauté, bien sûr, faut traverser en barque, hein, 21h. Une barque traverse la Seine. Il y a toujours d'énormes glaçons. C'est Jules Favre qui revient de Versailles. Et voilà ce que l'on peut lire. Il se rend au cabinet de Vinoy et rédige l'ordre de cesser le feu. À minuit moins le quart, il sort au balcon. L'artillerie des forts et des batteries allemandes faisait un bruit formidable. Enfin minuit sonna. Le dernier coup de feu fut tiré par les Français. Puis ce fut le grand silence. Alors évidemment, on ne peut pas cacher qu'il y a eu quelque chose. Ce 26 janvier à minuit ou ce 27 janvier à 0 heure, puisque c'est fini, le duel d'artillerie se termine. On peut prendre ce qu'écrit le Gaulois. Le Gaulois daté du 27 janvier 1871. Dès hier soir, à la première rumeur de l'armistice, on a vu sortir de terre. Si ce n'est pas de terre, c'était au moins des caves. Toutes sortes de produits alimentaires dont on ne soupçonnait pas l'existence. Des gens qui n'avaient jamais été marchands de comestibles, mais qui avaient fait leur petite cachette particulière, s'empressaient d'exhiber leurs provisions et de les mettre en vente. À la vitrine de certains cafés, d'un coiffeur, d'un bijoutier, on voyait apparaître les fromages variés, les fruits magnifiques, les poissons frais et conservés, etc. C'eût été comique si cette nouvelle preuve de notre esprit de spéculation qui nous a déjà été si funeste n'avait paru à tous profondément tristes. Les étalages des épiciers se sont regarnis comme par enchantement. Et alors évidemment, le journal Le Gaulois n'est pas vraiment un journal révolutionnaire. Hein. Samedi 28 janvier 1871, Bazaine. 400 000 hommes en armes capitulent devant 200 000 Prussiens. Et voilà ce qu'écrit Lissa Garay dans la Commune. Enfin, non content de livrer Paris, le gouvernement de la Défense nationale livrait la France entière. L'armistice s'appliquait à toutes les armées de province, sauf celle de Bourbaki, à peu près cernée. La seule qui en aurait bénéficié, quand il vint un peu d'air frais de la province, on sut que Bourbaki, poussé par les Allemands, avait dû, après une comédie de suicide, jeter son armée en Suisse. Et voilà ce que précise Adolphe Thiers à la commission d'enquête parlementaire en août 1871. L'armée de Bourbaki, hein, du reste c'est resté, l'armée en déroute, hein, Bourbaki et l'armée en déroute, armée qui avait été envoyée vers l'Est par la suite d'une conception malheureuse. Bilan de 6 mois de guerre, côté prussien, 11 600 soldats morts ou blessés, côté français, 4 000 soldats tués, 5 000 disparus, 15 000 blessés, 40 000 malades, 4 444 morts à Paris, rien que pour la troisième semaine de ce janvier 1871. Dimanche 29 janvier, à midi, le drapeau allemand flotte sur tous les forts de la périphérie. 250 000 soldats désarmés rentrent dans Paris. Ils s'ajoutent aux 40 000 blessés qui sont soignés dans les hôpitaux. Ils sont, de fait, prisonniers des Prussiens, et ça jusqu'au 3 mars. Puisque le siège est toujours en vigueur. Et voilà ce que l'on peut lire. À midi, les Prussiens ont pris possession du Mont Valérien. Clémenceau. On vous a livré sans merci. Toute résistance a été rendue impossible. C'est assez intéressant de voir Clémenceau, maire de Montmartre, qui dit « On vous a livré ». Il dit pas « On nous a livré ». Il dit « On vous a livré ». Clément Thomas, commandant en chef de la garde nationale, il n'y est plus pour très longtemps puisqu'il va démissionner le 14 février suite à sa responsabilité dans cette désastreuse sortie de Buzenval, donc est chargé de disperser une manifestation devant l'Élysée. Et puis en même temps, il invite les chefs de bataillon, donc de la garde nationale, à recueillir une souscription pour élever un monument en souvenir des gardes nationaux tués le 19 janvier à Buzenval, évidemment. Et dans le journal officiel, il est publié le décret réglant les élections à l'Assemblée nationale. Donc élections qui sont imposées donc par les Prussiens, les Allemands, donc pour avoir des personnes mandatées pour pouvoir signer donc cet armistice et puis après ce traité de paix qui va être le traité de Francfort. Les électeurs du département de la Seine sont convoqués pour le dimanche 5 février. les électeurs des autres départements pour le 8 février. Les élections auront lieu au scrutin de liste, conformément à la loi de 1849. Les fonctionnaires sont éligibles. L'Assemblée nationale se composera de 753 membres, le département de la Seine, 43 députés à élire. Alors cette date donc du 5 sera repoussée au 8 pour Paris. Les préfets ou sous-préfets ne seront pas éligibles dans le département où ils exercent leurs fonctions. Le décret de suspension des clubs ne s'adresse pas aux réunions électorales. Donc on voit, c'est une soupape de sûreté là qui est mise. Voilà ce qu'écrit Louise Michel. Un second délai fut accordé jusqu'au 28 février et le gouvernement, qui se défiait de Paris, obtint que l'armée allemande n'y entrerait que le 1er mars. Et encore Louise Michel, Paris, comme toute la France, dressait des listes de candidats s'estompant du républicain à l'internationaliste. Ceux qui avaient encore quelque confiance aux urnes éprouvèrent des surprises, telles que de voir M. Thiers qui, la veille de la proclamation officielle, avait 61 000 voix, ce qui, déjà, semblait exagéré, et a annoncé le lendemain 103 000. Ce sont les secrets du suffrage universel. C'est publié donc chez Stock en 1898. Elle continue, Louise Michel. Sur quelques listes, dites des quatre comités, le nom de Blanqui avait été proscrit, quoique plusieurs internationaux y fussent inscrits. Blanqui, c'était l'épouvantail. Les clubs choisirent les noms des internationaux, aussi bien celui de Liemneck, qui avait énergiquement protesté contre la guerre, que celui des internationaux français. Un grand nombre de révolutionnaires, n'ayant pas de confiance au suffrage universel, moins universel que jamais, s'abstinrent. Ils furent, comme on l'avait fait pour le plébiscite suivant, précédent, remplacés par les réfugiés, les soldats, les mobiles bretons. Louis Michel continue, les conditions de la paix étaient la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine avec Metz, le paiement en 3 années de 5 milliards d'indemnités de guerre, l'occupation du territoire jusqu'à parfait paiement des 5 milliards, l'évacuation à mesure et en proportion des sommes versées. Le 27 février, le bruit se répandit dans Paris de l'entrée de l'armée allemande. Et alors, autour donc des armes de la garde nationale, et ça c'est encore oublié par pratiquement tous les historiens, qui placent la commune aurait dû mettre la main sur la Banque de France, c'est oublié que la Banque de France avait des succursales un petit peu partout dans les grandes métropoles de France, hein. Et c'est oublié que Adolphe Thiers s'est servi du centre de tri de Paris pour continuer à acheminer jusqu'au 28 mars, hein, donc pendant 10 jours après l'établissement de la commune, enfin c'est après le 18 mars, donc pendant 10 jours, les lettres d'Adolphe Thiers en direction des préfets pour donner des ordres pour aller prendre Paris passaient par Paris. Ce n'est qu'après le 28 mars, une fois qu'Adolphe Thiers a réussi à faire un centre de tri à Versailles, qu'il a demandé au postier de venir à Versailles. Et là, on se rend compte que pour les armes, les gardes nationaux étaient tout à fait fondés à garder leurs canons, puisque dans la convention d'armistice, donc il y a une foultitude d'articles, mais il y en a une, par exemple, un article, la garde nationale conservera ses armes. Elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l'ordre. Et alors il est précisé que les gendarmes aussi gardent leurs fusils. Mais la garde nationale conservera ses armes. Les armes de la garde nationale, c'était aussi bien les fusils que les canons. Donc voilà. Il y a cette affiche du capitaine Brett. Et donc ça s'adresse aux 400 000 gardes nationaux. Car celui qui voudrait nous arracher notre fusil le recevra en pleine poitrine. Même Bismarck n'ose pas, et Julfa va confirmer. Monsieur de Bismarck, de son côté, savait très bien que notre impossibilité d'opérer cette reprise des armes aux gardes nationaux était absolue. Lui-même, comme le fait l'approuver, n'en voulait pas courir les chances. Le Flot, qui est le ministre de la guerre, à ce moment-là, voilà ce qu'il déclare. La garde nationale était parfaitement résolue à ne pas se laisser désarmer. Il aurait fallu livrer une bataille dans Paris. Jules Ferry, soyez sûr que que nous aurions sauté en l'air. » Et voilà ce qu'écrit Louise Michel. « On se ressouvint qu'à la place Wagram, il y avait des canons que les gardes nationaux des faubourgs avaient achetés par souscription et qui leur appartenaient pour la défense de Paris. À la place des Vosges également étaient des canons achetés par les bataillons du Marais. Chaque quartier avait les siens. Hommes, femmes, enfants s'attelèrent. Les pièces de Montmartre, roulées jusqu'au boulevard Ornano, sont montées sur la butte. Belleville et la Villette traînent les leurs au but de Chaumont. Les pièces du Marais sont laissées place des Vosges. C'est le meilleur endroit pour un parc d'artillerie. 2000 gardes nationaux se réunissent au comité central. On prépare des affiches suivantes pour le lendemain. » Et voilà le passage de cette affiche que dit Louise Michel. La garde nationale proteste par l'organe de son comité central contre toute tentative de désarmement et déclare qu'au besoin, elle y résistera par les armes. Et c'est signé le comité central de la garde nationale. Et Louise Michel conclut, ce manifeste fut affiché le lendemain 28 ainsi que le suivant.
Le monde s'habille à l'institut, partout ça brille et la vertu. Mais c'est gadin dans nos passions et c'est chagrin dans nos violons. Pourtant ça se barre à tir l'argot en tapis noir et blanc manteau. Une fille m'a vu courir vers elle et sa vertu se paye à des ailes. J'y vas-t-y pas. Si j'y vas, sûr que j'en reviens pas. Mais si je vas pas, qui me dira si que je le regretterions pas. Le monde s'habille en bande moltière pour faire la cheville à mon grand-père qui marche au pas sur la mémoire et donne le la à nos fanfares et puis me blague comme un soulisse, briquet de la loi et de l'exercice, y'a comme du recul dans ma démarche et des scrupules en avant-marche. J'y vas-tu pas, si j'y vas, sûr que j'en reviens pas, mais si je vas pas, qui me dira si que je le regretterions pas. Le monde s'habille en cœur de feu, trame de godille et terrain neutre. Pour une étoile de continent, y'a de la cavale au firmament. La lune, ça me tente bien d'y aller. Pourvu que j'y plante quelques pommiers, j'en rêve la nuit, j'en rêve tout le temps. Et puis je me dis en la regardant, j'y vas-y pas. Si j'y vas, sûr que j'en reviens pas. Mais si je vas pas, qui me dira si que je le regretterions pas. Le monde s'habille en cris d'amour et ses yeux brillent comme ses discours. Ça va par de le long du vent, l'est amoureux positivement. Une fille perdue loin de ses parents cherche sa rue et me trouve bêtement. Oserais-je lui dire c'est bien notre tour de se faire des souvenirs pour nos vieux jours. J'y vas-tu pas, si j'y vas, sûr que j'en reviens pas. Mais si je vas pas, qui me dira si que je le regretterions pas. J'y vas-tu, j'y vas. Si j'y vas, si je n'en viens pas. Mais si je vas pas, qui me dira si que je ne regretterions pas. J'y vas, j'y vas, j'y vas. Si j'y vas, si je n'en viens pas. Mais si je vas pas.
Toujours avec Jean Jonas. Et là c'était Chanson facile. Mardi 31 janvier, Gambetta, ministre de l'Intérieur encore, et membre de la délégation du gouvernement de la Défense nationale, il est à Bordeaux. Et là, comme il est à Bordeaux et pas à Paris, il prétexte qu'il n'a pas été consulté pour l'armistice. Et comme ministre de l'Intérieur, il affirme au préfet que l'armistice n'est applicable qu'à Paris. Et il continue, « Guerre à outrance, non, il ne se trouvera pas un Français pour signer ce pacte infâme, signé à notre insu, sans nous consulter. Aux armes, vive la France, vive la République, une et indivisible. » On peut prendre ce qu'écrit Maxime Ducamp, c'est dans Souvenir d'un demi-siècle. On voyait Gambetta tirer toute la popularité à soi, et cela ne se pouvait supporter. Ce fut un homme d'apparence très douce, ce fut le mielleux Jules Simon qui réclama, qui reçut mission d'aller mettre le dictateur à la raison et, au besoin, de le faire empoigner, conduire en un lieu sûr, au secret, derrière des portes solides, bien verrouillées et gardées par des factionnaires. Donc ce Jules Simon partit, muni des pleins pouvoirs, et décidé à agir énergiquement. Cela ne fut pas nécessaire, Bismarck était intervenu et avait mis le holà. Donc, vendredi 3 février, Gambetta publie un arrêté qui exclut des élections tout candidat qui, entre le 2 décembre 1851 et le 4 septembre 1870, a participé au Second Empire. Et voilà une phrase. « Sont nuls et de nullité absolue les bulletins de vote portant les noms des individus compris dans les catégories ci-dessus désignées. » Donc tous ceux qui ont fricoté avec le Second Empire. Samedi 4 février, Gambetta, qui est toujours à Bordeaux, télégraphie au préfet, donc son interdiction. Et voilà, article 1er, ne pourront plus être élus représentants du peuple à l'Assemblée les individus qui, depuis le 2 septembre 1851, ont accepté les fonctions de ministre, sénateur, conseiller d'État et préfet. Lundi 6 février, toujours à Bordeaux, 15h, Gambetta annonce sa démission. Et voilà comme c'est fait. Intérieur et guerre, donc ministère de l'Intérieur et ministère de la Guerre, à préfet et sous-préfet. Ma conscience me fait un devoir de résigner mes fonctions de membre du gouvernement avec lequel je ne suis plus en communication d'idées ni d'espérance. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai remis ma démission aujourd'hui même. Et alors donc, Emmanuel Arago va le remplacer donc au ministère de l'Intérieur. Le Flot, qui est ministre de la Guerre à Paris, quitte aussitôt Paris pour Bordeaux. À 22h à Bordeaux, Adolphe Crémieux démissionne du ministère de la Justice. Et voilà ce qu'il dit. « Je ne puis résigner mes pouvoirs de membre du gouvernement que je tiens de l'acclamation. » Eh oui, cette république d'acclamation, il le rappelle. Eh oui, 4 septembre 1870, du balcon. Toc, acclamation. « Et de l'acceptation du peuple commun des représentants du peuple. Mais en attendant la réunion de l'Assemblée nationale, je cesse de prendre part à vos délibérations et à vos actes. » Donc, on se rend compte, là, il y en a qui commencent à sentir le vent tourner. Et on s'en va un petit peu avant. Voilà ce qu'écrit Maxime Ducamp. Les trois mandataires d'un gouvernement de guerre à outrance, que la fortune adverse avait rendu pacifique, avaient été choisis avec discernement. Pelletan, homme de bon sens, sachant l'histoire et résigné à s'incliner devant la nécessité que les événements rendaient inéluctable. Garnier Pagès, Emmanuel Arago, Demoulin à parole, que rien ne faisait taire et qui pouvait parler 2 heures de suite sans perdre haleine. J'imagine que sous le flux de leurs discours sans intermittence, Gambetta se sentit vaincu et quitta la partie. Tout en se cramponnant au pouvoir qu'il aimait follement, y compris qu'une résistance entêtée lui fermait l'avenir. C'est l'analyse de Maxime Ducamp. Toujours est-il que le parti orléaniste, au travers d'Adolphe Thiers, a gagné. Et puis, il ne reste plus à Paris que Trochu, Favre, Dorian et Picard. Tous les autres, évidemment, sont arrivés à Bordeaux. 6 février, à Paris, une commission de 7 délégués des bataillons de la garde nationale propose une réunion au Cirque National. Et oui, c'est l'actuel Cirque d'hiver qui, avant de s'appeler le Cirque National, avant le 4 septembre, s'appelait le Cirque Impérial. Et donc se réunir sans aucun esprit exclusif de parti ou d'opinion. Et c'est donc à raison d'un délégué par bataillon de la garde nationale. Et puis apparaît le nom de Courty, du 88e bataillon, qui préside la séance pour étudier les candidatures de l'Alliance républicaine, de l'Union républicaine, des défenseurs de la République et de l'Association internationale des travailleurs. Courty, qui était un vague négociant et qui avait été élu donc commandant de son bataillon de la garde nationale. Mercredi 8 février, élection d'une nouvelle Assemblée nationale, donc pour ratifier le traité de paix et dans l'immédiat l'armistice. Donc c'est un scrutin de liste à un tour. Les prisonniers et les réfugiés sont exclus des listes. Les soldats votent à part de la population civile. Bismarck va interférer dans la campagne électorale en attaquant Gambetta dans le journal Le Moniteur. Gambetta va quand même être élu dans plusieurs circonscriptions, dont Paris. Et Gambetta va choisir le Bas-Rhin. Évidemment, il va se retrouver sans mandat après la ratification des préliminaires de paix le 1er mars, puisque l'Alsace et la Lorraine sont inclus dans l'Empire allemand. Alors c'est encore une habileté de Gambetta de se mettre largement en retrait. La campagne électorale a été inexistante. Dans les 43 départements occupés par les troupes allemandes, ce sont les soldats qui vont afficher et distribuer les listes de candidats réactionnaires. Ils interdisent même toute réunion électorale. Rochefort rapporte qu'à Argenteuil, banlieue parisienne, un citoyen porteur de la liste du comité central est aussitôt jeté en prison. Évidemment, à Paris, les journaux révolutionnaires ont été interdits. Et voilà ce qu'écrit Lissa Garay. Un cri fut jeté dans toutes les chaumières. C'est la République qui veut la guerre. Paris est aux mains des partageux. Que savait le paysan français et combien pouvait dire où se trouvait l'Alsace ? Roulant, gouverneur de la Banque de France. On y voit clair. C'est à la République rouge, jacobine et communiste, à son Mont-Aventin, Montmartre. Ils disent qu'ils n'attaqueront pas, mais qu'ils ne désarmeront pas. Ces gens-là ne connaissent qu'une défaite, celle de la force. Ce sont les ateliers nationaux qu'on veut dissoudre, et de nouveau, peut-être les journées de juin. Le journal officiel publie la démission de Gambetta. Cette démission a été acceptée. Monsieur Emmanuel Arago a été chargé à Bordeaux du portefeuille de l'intérim. Monsieur le général Leflo, ministre de la guerre, est parti hier soir pour prendre la direction des affaires militaires. Le journal Le Vengeur de Félix Piat publie un article de Millière. Cet article est très gênant pour Jules Favre, puisqu'il ressort que ce Jules Favre a falsifié des pièces d'état civil pour capter un héritage. Il avait défendu, Jules Favre, les accusés en avril 1834. Il a aussi été élu en 1848 à la Constituante. Il va s'écarter de la gauche au 2 décembre. Il est protégé par ses collègues avocats. Il va donc se présenter aux élections de 1858. Donc il aura largement fricoté avec le Second Empire. La Chambre fédérale des sociétés ouvrières, l'Association internationale des travailleurs et la délégation des 20 arrondissements vont faire une liste commune. Et oui, il faut 43 candidats puisqu'il y a 43 sièges à pourvoir. Une affiche à Paris propose par ordre alphabétique 43 candidats socialistes révolutionnaires. Socialistes révolutionnaires. Il y a des ouvriers. Il y a des ouvriers qui voisinent avec Blanqui, avec Garibaldi. Garibaldi va être élu. Henri Goulet va signer comme secrétaire de l'Association internationale des travailleurs. Budac, lui, c'est pour la Chambre fédérale des sociétés ouvrières. Constant Martin, lui, signe pour la délégation des 20 arrondissements de Paris. Jules Vallès, qui n'est affilié à aucun mouvement, est le seul écrivain. Les résultats définitifs ne seront officiels que le 15 février. Donc on va attendre longtemps, entre le 8 février et le 15 février. Et Gustave Lefrançais écrit « Tolin ». Tolin, donc candidat socialiste révolutionnaire, ira grossir les rangs des Corbons, des Pepins et des Grépeaux, ces transfuges de la révolution sociale, ces ouvriers devenus bourgeois par la grâce du suffrage universel. Et pour Gustave Lefrançais, les clubs continuent. Alors officiellement, c'est pour la campagne électorale, mais officieusement, il y a d'autres réunions. Et Lefrançais précise que des réunions se tiennent chez Chavagnat, ancien patron de Tolin. Et alors Lefrançais, on peut le rappeler, était lié au musicien, au compositeur Édouard Lalo. Voilà. Dimanche 12 février, pour payer les indemnités de guerre exigées par les Allemands, les membres du gouvernement restant à Paris décrètent un emprunt. Et puis ce dimanche aussi, parce qu'on a les dates en général, mais donner les jours, c'est très intéressant, puisque le dimanche, en principe le dimanche, c'est un jour de repos, hein, voilà, c'est le jour dit du Seigneur. Alors dans quel sens doit-on le prendre avec un E ou avec un A? L'émeute gronde à Belleville. Les boulangers n'ont reçu que 320 sacs de farine au lieu des 800 qui sont nécessaires. Jules Favre arrive à Bordeaux. Il rejoint Jules Simon, Eugène Pelletan, Emmanuel Arago, Garnier Pagès. Il n'y a plus à Paris que Ferry, Trochu et Picard. Avant même la proclamation des résultats, 246... futurs élus organisent à 15h une réunion à l'Assemblée nationale dans le Grand Théâtre de Bordeaux. Et là, ils décident que la première réunion publique de cette Assemblée nationale est fixée au 18 février. Et puis, il y a une affiche sur les murs de Paris. Le titre, c'est Un dernier mot. Elle est signée Blanqui. Elle est aussi datée donc du 12 février. Et là, Blanqui juge le gouvernement de la Défense nationale. Des fourbes présidés par un jésuite. Et donc cette affiche est en vente. 5 centimes, rue du Croissant. Et puis Vaillant, Blanqui et Tridon partent pour Bordeaux tenter une ultime démarche contre l'armistice. 15 février, on est un mercredi, on est à Bordeaux. Sur les 675 élus, on a enfin les résultats. Il y a 400 monarchistes, dont 24 généraux. À l'opposé de la province, sur les 43 sièges du département de la Seine, Paris envoie 37 députés non monarchistes. Et on peut prendre ce qu'écrit Wikipédia, à peu près neutre. La création de la Troisième République. Le Parlement est divisé entre républicains radicaux, siégeant à l'extrême gauche. Alors moi je veux bien, mais ils ont démissionné assez vite ceux-là. Républicains modérés, siégeant à gauche. Monarchistes ralliés à la République, libéraux centre-gauche. Monarchistes orléanistes, monarchistes légitimistes et bonapartistes. Ces trois derniers groupes représentant la droite. Ainsi, aux élections du 8 février 1871, les républicains obtiennent 152 sièges. 112 modérés, 40 radicaux. Et les conservateurs monarchistes, 494 sièges, 214 orléanistes, 182 légitimistes, 78 libéraux centre-gauche, 20 bonapartistes. Donc c'est le chiffre qui est donné. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette classification, mais là, elle a le mérite peut-être d'être précise, c'est pour ça qu'elle est juste. On peut prendre ce qu'écrit le comte de Falou. Ah oui, ce fameux de la loi Falou. La question de la paix et de la guerre a galvanisé le suffrage universel et vient de nous donner la chambre introuvable. Zola, journaliste pour le journal La Cloche, et oui, il se débrouille à faire la chronique parlementaire donc pour La Cloche, et voilà ce qu'il dit, le Zola. Je sors de la première séance. Imaginez une chapelle ardente. On entre là à 2 heures, avec du soleil plein les yeux, et l'on tombe dans une salle éclairée par 3 lustres. En bas, les banquettes rouges. Sur la scène, dont le rideau est levé, une tribune et une estrade tendue de draperies pourpres. Au milieu d'un décor de salon, c'est là que la France va être exécutée. On cherche le bourreau dans un coin d'ombre, un public de première. Les honneurs de la séance ont été aujourd'hui pour Victor Hugo. Le grand poète s'est tenu presque constamment debout, à gauche de la tribune, devant le premier banc. La face tournée vers ses collègues. Et alors, pendant qu'à Bordeaux, le premier vote de cette Assemblée nationale, qui va être une mesure vexatoire, puisque pour toucher la solde des 30 sous, tout quart de national devra faire la preuve de son indigence. Donc, à Paris, une nouvelle réunion au Tivoli Vauxhall, des délégués de la garde nationale qui décident de se fédérer. 18 arrondissements sont représentés. On vote la poursuite de la guerre à outrance. On décide la constitution d'un comité central qui chapeautera la Fédération de la Garde Nationale. On élit une commission de 20 membres pour établir les statuts de la Fédération de la Garde Nationale. Le préambule commence comme cela. Moyen d'opposer à la tyrannie une barrière infranchissable et de remplacer l'exploitation humaine par la fraternité et la solidarité universelle. Donc on se rend compte que ça change un petit peu de ce qui se passe à Bordeaux. Eh bien, on va essayer avec Jean Jaunas. Et oui, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Hein. Il y a des vieux trucs comme ça, mais qui sont pas tout à fait faux.
Alors qu'il n'avait que 20 ans, c'est fou ce que la mort bouscule les habitudes des vivants. On l'a couché dans ses 20 berges, capitonné d'une prière. Autour on a planté des cierges comme un gâteau d'anniversaire. Ne pleurez pas sa jeunesse, elle n'avait que trop duré. Vous aviez prié pour qu'elle cesse, vous en voici récompensé. Sonne la fin de son enfance à la porte des litanies. La vie a de ses coïncidences, à croire qu'elle avait compris. restez seul avec vos larmes à dire des mots raisonnables. Le silence fait un vacarme qui vous paraît insoutenable. Il flotte une ombre dans l'espace et vous croyez la reconnaître. On dirait un ange qui passe, surtout n'ouvrez pas la fenêtre. De la jeunesse que l'on sème, il ne reste que l'auréole qui pousse comme un chrysanthème sur un rectangle d'herbe folle. La nature est au cimetière, aussi sèche que nos mémoires, et les morts ne se désaltèrent que quand la pluie leur verse à boire. Un homme est mort au crépuscule, alors qu'il n'avait que 20 ans. Il part avec les noctambules qui traversent la nuit des temps. On l'a couché dans ses 20 berges, capitonné d'une prière. Autour, on a planté des cierges comme un gâteau d'anniversaire.
Jonas, et en principe c'était chanson assassine. Vendredi 17 février 1871, Jules Grévy est élu président de l'Assemblée nationale par 519 voix sur 538. Et oui, parce qu'il y a eu, et ils sont pas complets puisqu'il y a eu des élections multiples, et puis il y en a qui sont déjà pas là. Martel, Benoît Dazy, Vittel et Hon de Malville sont vice-présidents. Baze, le général Martin des Palières, Princeteau, Kester, Bettemont, de Rémusat, de Barante, Johnston sont secrétaires. Et alors, Thiers devient chef du pouvoir exécutif. Et il fait rajouter, malgré les protestations, de la République française. Mais, il se pose des questions. Le titre de chef lui déplaît, et voilà ce qu'il dit. Me prennent-ils pour leur cuisinier? Et Thiers va déclarer, devant la commission d'enquête parlementaire, et ça sera le 21 août 1871 qu'il vient déposer devant les députés. Quand je fus chargé des affaires, j'eus immédiatement cette double préoccupation. Conclure la paix et soumettre Paris. On peut prendre les mémoires de Bismarck. Je l'aime bien d'ailleurs, ce cher petit homme. Je lui laissais entrevoir que nous n'aurions qu'à laisser les soldats prisonniers retourner en France avec leurs armes pour que la France fût de nouveau à Napoléon. Mais si Thiers se montrait de bonne composition, nous pourrions laisser un d'Orléans arriver à Napoléon. Henri Malot. Henri Malot, c'est le conservateur de la bibliothèque de la Fondation Thiers. Il a écrit donc une biographie sur Adolphe Thiers. Bon, il est relativement bien placé pour en parler. Et alors voilà ce qu'il dit sur cette élection de Thiers, chef du pouvoir exécutif. Il est à la fois chef d'État, président du conseil et représentant, en fait une sorte de dictature. En attendant qu'il soit statué sur les institutions de la France, il maintiendra le statu quo. C'est ce qui s'appelle le pacte de Bordeaux. Alors faudra attendre ce fameux amendement Voillon du 30 janvier 1875, voté juste à une voix de majorité, hein, 353 pour, 352 contre. Puis il paraît qu'il y en a un qui s'est trompé, il y a un monarchiste qui s'est trompé dans son bulletin. Enfin, toujours est-il que... Voilà. Et c'est cet amendement qui va devenir l'article 2 de la loi du 25 février 1875. Et là, on se réunit là à Bordeaux. Et alors, bah oui, il y a Garibaldi qui est là à Bordeaux. Il a été élu député. Mais le problème, c'est que... Ah bah oui, et non, Garibaldi s'est refusé parce qu'il n'est pas français. Et voilà ce qu'écrit Louise Michel. Comme le vieillard... Adolphe Thiers restait debout au milieu du tumulte. Gaston Crémieux de Marseille, qui devait être fusillé quelques semaines plus tard, s'écria, aux applaudissements de la foule entassée dans les tribunes, « Majorité rurale, honte de la France !» Et Louise Michel continue, « L'Assemblée de Bordeaux fut jusqu'au bout digne de son début. Il fut impossible à quiconque pensait librement de rester dans ce milieu hostile à toute idée généreuse. » Rochefort, Malon, Ranc, Tridon, Clémenceau donnèrent leur démission. Celle de quatre d'entre eux était collective et conçue en ces termes. Citoyen président, les électeurs nous avaient donné le mandat de représenter la République française. Or, par le vote du 1er mars, l'Assemblée nationale a consacré le démembrement de la France, la ruine de la patrie. Elle a ainsi frappé ses délibérations de nullité. Le vote de quatre généraux et l'abstention de trois autres démentent formellement les assertions de M. Thiers. Nous ne pouvons demeurer un jour de plus dans cette Assemblée. Nous vous donnons donc avis, citoyen président, que nous n'avons plus qu'à nous retirer. Et c'est signé Henri Rochefort, Benoît Malon de l'International, Ranc, Arthur Ranc, Tridon de la Côte d'Or. Louise Michel continue. Garibaldi, Victor Hugo, Félix Piat, Delescluze donnèrent également leur démission de député. Et ça s'est pris donc dans La Commune, écrit donc par Louise Michel et édité chez Stock en 1898. Samedi 18 février 1871, de Bordeaux, Victor Hugo, qui a été élu, écrit à Paul Maurice. « De vous à moi, la situation est épouvantable. L'Assemblée est une chambre introuvable. Nous y sommes dans la proportion de 50 contre 700. C'est 1815 combiné avec 1851. Hélas, les mêmes chiffres un peu inversés. Ils ont débuté par refuser d'entendre Garibaldi qui s'en est allé. Nous pensons, Louis Blanc, Victor Schœlcher et moi, que nous finirons nous aussi par là. » Alors, Maurice, hein, Paul Maurice, vaguement écrivain, s'est chargé des intérêts financiers et littéraires de Victor Hugo pendant donc les 20 années d'exil de Victor Hugo. Paul Maurice était resté en France. Dimanche 19 février, Adolphe Thiers présente son gouvernement. Alors, il y en a toute une liste. Et alors, Henri Malo, je rappelle ce qu'il avait dit, c'est que, en fait, Adolphe Thiers est un dictateur et c'est ce qui va s'appeler le pacte de Bordeaux. On peut prendre ce qu'écrit Victorien Sardou. Ça, il l'a écrit après la mort d'Adolphe Thiers. « Si j'y ai un profond politique qui, pour régner tout seul, fonda la République. » Lundi 20 février, Vinoy, voilà ce qu'il écrit, ce général bonapartiste. Le 19, dimanche 19, une réunion qui devait avoir lieu, salle Rochechouart, avait pu échouer par des mesures préventives par la police. Aujourd'hui, une autre réunion annoncée à la salle Ménilmontant est également empêchée, sans qu'il en résulte aucun trouble. Alors, la salle Ménilmontant, ça doit être celle du grand pavillon Ménilmontant qui se tenait 27 rue de Ménilmontant. Et alors donc, c'est toujours Vinoy qui écrit ça dans son bouquin « L'armistice et la commune ». Mardi 21 février, Thiers, Picard et Favre, qui sont chargés des contacts avec Bismarck, donc remontent à Paris. Et de là, il passe à Versailles. Picard va être écarté aussitôt. Il pose trop de questions. Mercredi 22 février, Jules Vallès lance le cri du peuple. Et voilà ce que l'on peut lire dans le premier numéro. Il fait pitié ce Paris vaincu. On se dispute un morceau de l'art comme un drapeau et un cervelas comme une croix d'honneur. La sociale arrive, entendez-vous. Elle arrive à pas de géant, apportant non la mort, mais le salut. Elle enjambe par-dessus les ruines et elle crie « Malheur aux traîtres, malheur aux vainqueurs !» Vous espérez l'assassiner ? Essayez. Debout, entre l'arme et l'outil, prêt au travail ou à la lutte, le peuple attend. Et alors la composition de cette première mouture du cri du peuple est composée avec Henri Boer, qu'on retrouvera donc aux côtés de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, Eugène Vermerche, Jean-Baptiste Clément, qu'on ne présente pas, Henri Verlet, libre penseur, Casimir Bouy et Louis Lucipia. Et donc, la rédaction est au 9 rue d'Aboukir. Et Vallès en rajoute. Ce qu'on appelle en langage noble hommes d'État sont des charlatans politiques. Et puis il précise, il traite Thiers de vautours à tête de perroquet, de taupes à lunettes, de polichinelles tricolores. Mais pratiquement, il y en a une page entière de slogans sur Thiers. Jeudi 23 février, Thiers est à Paris et dans l'enquête parlementaire, voilà ce qu'il déclare. « Vous ne ferez jamais d'opération financière si vous n'en finissez pas avec tous ces scélérats. Si vous ne leur enlevez pas leurs canons, Il faut en finir, et alors on pourra traiter d'affaires. Je disais à ceux qui m'avaient envoyé, « Je ne suis pas ce que vous appelez un républicain, je suis un ancien monarchiste. Mais j'ai reçu la République en dépôt, et je garderai fidèlement ce dépôt. » Et alors, c'est tout à fait ce que déclare Victorien Sardou, hein, « Si j'y ai un profond politique, qui pour régner tout seul, fonda la République. » Jules Lemel, dans un ouvrage titré « Le siège de Paris », qui a été publié en juillet 1871. Tous les renseignements qui arrivent de Bordeaux constatent l'immense influence exercée par M. Thiers sur l'Assemblée nationale. Gustave Courbet, une lettre du jeudi 23 février 1871. Il écrit à son père. Gustave Courbet est à Paris, bien sûr. Il écrit à son père. Le gouvernement n'était pas républicain et ne voulait pas que la République sauve la France. Paris n'a pas voulu se rendre. Ils l'ont rendu eux-mêmes, 3 jours avant que personne n'en sache rien. Nous avons été pendant tout le temps que les provinces se battaient, 500 000 prisonniers de guerre à Paris. Et alors, ben oui, l'armistice n'est toujours pas signé. Il est prorogé donc jusqu'au dimanche 26 à minuit. 24 février, vendredi. L'Assemblée générale des 2000 délégués de la garde nationale, qui s'est réunie au Tivoli-Vauxhall, se constitue en comité central. C'est la première réunion officielle, la deuxième ce sera le 3 mars, la troisième le 10 mars et la quatrième le 15 mars. Et voilà encore quelques rappels donc de ce qui est décidé, donc de façon à ce que l'homme du travail, le producteur, soit également appelé à représenter la nation. Alors ça, évidemment, ça c'est révolutionnaire. On décide que la garde nationale ne se reconnaît pas d'autres chefs que ceux qu'elle se donnera. Et à 18h, on part en cortège à la place de la Bastille pour rendre hommage aux victimes de la répression de juillet 1830, dont les noms sont inscrits sur le fût de la colonne. Alors cette colonne, donc place de la Bastille, a été érigée sous Louis-Philippe, sur un projet donc d'Adolphe Thiers. Et voilà l'argumentaire d'Adolphe Thiers, c'est pour fermer définitivement la Révolution. Et oui, 1789, ça s'est terminé en 1830 pour lui, la Révolution à Thiers. Le même lieu rappellera ainsi le commencement et l'heureuse fin d'une révolution de 40 années. Donc l'heureuse fin, c'est les massacres des Trois Glorieuses de juillet 1830. C'est Adolphe Thiers qui le dit. La garde nationale, à partir de ce jour, n'oubliera plus qu'à ses chefs qu'elle a élus. Et puis les mobiles de la Seine vont se joindre aux manifestations. Le gouvernement veut opposer les bataillons bourgeois de la garde nationale, en général ceux du boulevard Saint-Germain. En fait, aucun ne répond. On peut prendre ce qu'écrit Lisa Garaille. Paris, anxieux pour sa liberté, se serrait autour de sa colonne révolutionnaire. Un drapeau rouge fend la foule, s'engouffre dans le monument, reparaît à la balustrade. Oui, il y a un escalier à l'intérieur. Un homme escaladant la coupole a l'audace d'aller fixer la hampe dans la main du génie. Des femmes, vêtues de noir, suspendirent une bannière tricolore. Aux martyrs, les femmes républicaines. Le soir, la colonne révolutionnaire, revêtue d'immortelles, de fleurs et d'oriflammes, apparut triomphante et sombre, deuil du passé, espoir de l'avenir.
Du jour sur l'eau des amours, il passe des navires chargés de souvenirs, et je m'assois près d'eux pour une heure ou deux. Sur le pont, les voyageurs font des grands sourires aux pêcheurs, et ça fait rire les poissons qui voient danser le bouchon. Pont du point du jour, j'y reviens toujours. Les grands chalands qui remontent le courant, avec dans leur cale des lambeaux d'étoiles, et je me fais des firmaments de port au bord des continents, tandis que les pêcheurs s'en vont sous le rire des poissons. Pont du coin du jour, sur l'eau des amours, ils passent des bateaux comme des bateaux, et je m'assois près d'eux un jour ou deux. Un jour je partirai aussi voir le soleil de Tahiti. Je laisserai là les poissons et le rire des bouchons. Pont du point du jour, j'y reviendrai toujours. Regardez passer ces grands étrangers, aux drapeaux d'ailleurs, aux étranges couleurs. Et puis après tout je me dis que je ne suis pas plus mal ici. Je retourne à ma chanson, bien le bonjour aux poissons.
Dans des écoles, aux murs décorés de tes dessins d'enfants, sur des bancs où tu seras fier de t'asseoir, comme se sont assis tes aînés, quand nos aînés n'y seront plus. On t'apprendra l'obéissance, on t'apprendra la transparence, on te rendra inodore, incolore, insipide, insonore et stupide. On t'apprendra le code de la route, à voter oui une fois pour toutes, à voter oui, à voter non, à voter, à faire ton devoir du dimanche. Tu deviendras celui qui rampe, on éteindra ta lampe. Et tu parleras au nom des autres. Tu diras nous. Tu diras nous voulons. Tu ne diras plus jamais moi. Tu parleras très fort, tu marcheras quand même sous la botte ferrée d'un cabot militaire, puisqu'il faut le faire. Ou bien tu te feras réformer et tu le diras très fort en riant comme une conne. Je les ai bien nus. Je les ai bien nus. Comme si c'était possible. Tu seras de la majorité ou tu seras de l'opposition. Tu suivras les consignes. Tu seras pour ou contre. Et quand tu l'auras dit, t'iras t'asseoir devant ta soupe, avant qu'elle refroidisse, avant que même le roi co se révolte. À défaut d'être quelqu'un, tu seras quelque chose dont tu poseras bien haut en faisant de grands gestes modestes. Tu seras une fonction écrite en gras sur une carte de visite. Tu écouteras les compliments, le rouge au front, baissant la tête, couronnant de tes cheveux blancs le pavillon de ta retraite. Et tu diras merci, ravalant ta rancœur, car on t'aura appris qu'on ne parle jamais la bouche pleine. Tu seras putain, bien sûr, mais faut bien vivre. Et l'on t'entendra dire, mon petit, tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tu comprendras plus tard. Il faut plier parfois, comme j'ai plié toujours. Et tu feras le compte de tes amis sur le doigt qu'il te restera d'une vie de labeur avec des gens sévères, mais justes. Et l'on t'emportera plié, voûté, coudé dans une boîte en bois, comme dans le ventre d'une mère, suivi des enfants de ta femme. Voilà pourquoi, mon fils, ta mère, prend la pilule.
Eh bien, c'était Jean Jonas. Donc la première, c'était Le Phare, et la deuxième, très longue, comme les autres. Eh bien, oui, nous sommes le samedi 25 février 1871, il est 14h, 3000 manifestants sur la place de la Bastille, 2000 gardes mobiles de la Seine et 2000 soldats divers rejoignent la manifestation. Et c'est la première fois que les soldats vont manifester aux côtés des gardes nationaux. Le soir, seul le club de la Marseillaise, qui est rue de Flandre, pourra ouvrir. Arthur Rimbaud, ce samedi 25 février, arrive à Paris. Il va passer la nuit sur un banc avec une demoiselle qu'il tient sous le charme du rayon violet de ses yeux. C'est Rimbaud qui le dit. Et le lendemain, bah, il sera sous le charme d'André Gide, parce qu'il s'endort chez André Gide et c'est André Gide qui trouve quelqu'un chez lui. Il est assez interloqué, André Gide. Dimanche 26 février, Thiers et Jules Favre signent les préliminaires de paix. Ça se passe dans une villa de la rue de Provence à Versailles. La population de Paris préserve l'artillerie qu'elle a financée et les hisse sur les canons, donc va hisser les canons sur les hauteurs. Belleville, Montmartre, Butte-aux-Cailles. On voit ce qu'a expliqué Louise Michel. Adolphe Thiers, parce qu'il déclare, aussitôt après la signature de la paix, je vis que nous aurions à mener une lutte terrible contre ces gens de toutes sortes accumulés dans Paris. Alphonse Daudet, oui, qui paraît le bon pépère, là. Paris ouvert, il va falloir rentrer dans le rang, travailler, regarder la vie en face, rendre les galons, les appartements, rentrer au chenil. Et c'est dur. C'est assez curieux ce qu'écrit Alphonse Daudet. Bon pépère, on retrouve pratiquement cet état d'esprit dans certains milieux libertaires. C'est assez étrange. La garde nationale, aidée de la foule, récupère 227 canons et mitrailleuses des parcs d'artillerie du Ranelagh et de Wagram que Thiers donnait de fait aux Allemands, puisqu'il ne pouvait pas désarmer la garde nationale. Donc il espérait que les Allemands allaient le faire. Ils sont parqués au parc Monceau, place des Vosges, à Montmartre, Belleville, à la Villette et Place d'Italie. Victor Schœlcher, Tirard, Georges Clémenceau, Henri Martin sont utilisés par le ministre de l'Intérieur, Ernest Picard, comme négociateurs avec la garde nationale pour la livraison des canons. Ça ne marchera pas. Des troupes envoyées par Vinoy pour maintenir l'ordre vont fraterniser encore avec la garde nationale. Alors, peut-être quelques mots là. Parce qu'on voit Schœlcher, Victor Schœlcher, le père des Noirs, 1848, Tirard, Martin, Henri Martin. Henri Martin est rédacteur en chef au journal Le Siècle. Donc cet Henri Martin a également été maire du 16e arrondissement, donc en 1870, et puis de 1880 à 1883.
Donc il est élu député de Paris, là, au 8 février 1871. Il sera aussi élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques, toujours en 1871, et à l'Académie française. Et ça, l'Académie française, ça sera le 13 juin 1878. Il cumule parce qu'il est sénateur de l'Aisne en 1876. Il va quand même soutenir le projet de loi voté par la Chambre pour ériger le 14 juillet en fête nationale. Mais tout ça, ce sont des bornes à ne pas dépasser. On a vu ce qu'a fait Adolphe Thiers pour la colonne de la Bastille. Hein. C'est pour marquer que ça y est, 1830, on en a massacré. La révolution de 1789, c'est fini, on n'en parle plus. Et il va prononcer donc devant le Sénat un discours pour soutenir donc ce 14 juillet. Il va contribuer à la fondation de la Ligue des Patriotes, dont il est le premier président. Et alors, bah oui, il y a une avenue parisienne du 16e qui porte son nom. Hein. Et alors, on voit là, en 1871, ils sont la main dans la main, hein. Pierre-Emmanuel Tirard, lui, va être... à l'initiative de la coopération en haute cour des chefs boulangistes. Hein. Donc on voit que quelques 20 ou 30 années plus tard, ça a un petit peu évolué dans tous les sens. Lundi 27 février 1871, on peut prendre ce qui est écrit dans le journal officiel. Donc là, il y en a encore qu'un. Hein. Les préliminaires de paix viennent d'être signés aujourd'hui. Ils seront soumis au vote de l'Assemblée nationale, Bordeaux. Un nouvel armistice de 15 jours fait cesser dès à présent les contributions et les réquisitions que chaque jour aggravaient. Malgré tous les efforts, il n'a pas été possible d'empêcher l'entrée dans certains quartiers de Paris d'une partie de l'armée allemande. Les négociateurs allemands avaient proposé de renoncer à toute entrée dans Paris si l'importante place de Belfort leur était concédée définitivement. Et c'est signé le ministre de l'Intérieur, Ernest Picard. Alors Paris sera occupé jusqu'à la ratification de l'armistice. Il ressort que Thiers prend en otage les Parisiens et leur fait subir tout retard dans l'acceptation des conditions par l'Assemblée de Bordeaux. Mais il a encore un truc derrière la tête, le Adolphe Thiers, là. Et voilà ce qu'écrit Jules Vallès. Jules Vallès à la Corderie, là, qui préside ce lundi 27 février au soir, l'Assemblée de tous les comités qui refusent de suivre la garde nationale, qui veut s'opposer à l'entrée des Allemands dans Paris. Peuple de Paris, voit le piège. La réaction recommencerait les massacres de juin avec les baïonnettes prussiennes. Et Vallès dans le cri du peuple, honteuse des souvenirs de juin 1848, la bourgeoisie veut faire le coup par le Prussien. C'est l'ennemi qui assassinerait, elle aurait le bénéfice du massacre sans en avoir l'infamie et le péril. L'assassinat passerait au profit et perte de la guerre banale dans le grand livre de l'histoire. Eh bien voilà, je vais terminer donc pour aujourd'hui cette évocation des partageux de la Commune, donc autour de Louise Michel. C'est sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer la carte d'auditeur de Radio Libertaire, cela à la librairie Publico qui se trouve 145 rue Amelot. À Paris, tout près de la place de la République. Si vous nous entendez par internet, là, je crois que c'est réparé aujourd'hui. Vous pouvez donc, vous pouvez nous entendre aux antipodes. Hein. Alors, vous déplacez à Paris, vous serez toujours bien accueillis rue Amelot, bien sûr. Mais vous pouvez aussi glisser donc un chèque d'au moins 20 euros dans une enveloppe. Donc, le chèque, c'est DMC et l'enveloppe, c'est Radio Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, France. Voilà, vous pouvez rajouter Europe aussi, voilà, bien sûr. Radio Libertaire, donc, est relayée par Internet, au niveau planétaire, bien sûr. Et les émissions sont mises en mémoire, donc, pour une semaine. C'est-à-dire que l'émission d'aujourd'hui est censée effacer celle de la semaine d'avant. Eh bien, avant de laisser les micros et le studio à l'émission, donc, onde de choc, et je les vois piaffer d'impatience, un temps des cerises, c'est parti. On va le découvrir, parce que je ne sais pas lequel c'est.
Quand nous en serons au temps des cerises et guerres signales et merles moqueurs seront tous en fête, les belles auront la folie en tête et les amoureux du sol. soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi j'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne pourra jamais. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde.